France Culture.
Pourquoi avez-vous peur ? N'avez-vous pas encore la foi ?
Bonjour, heureux de vous retrouver en ce dimanche matin sur France Culture. Il est 8h30, l'heure de Solae, le rendez-vous protestant. Votre magazine proposé par la Fédération protestante de France est présenté par Jean-Luc Gadreau. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir un invité bien connu du grand public et profondément enraciné dans le théâtre, Lionel Astier, comédien, auteur, metteur en scène. Alors, il est notamment populaire pour son rôle dans la série Kaamelott ou bien encore dans Alex Hugo. Mais c'est sur scène que son engagement artistique prend une profondeur singulière, notamment dans les Cévennes, une terre marquée par l'histoire protestante. On se souvient naturellement de sa pièce La nuit des Camisards, jouée depuis plus de 10 ans dans les collines cévenoles. Cet été, il revient avec une nouvelle création puissante et contemporaine, Élise, la colère de Dieu. Un titre fort, une parole intime, une révolte peut-être, une prière aussi. Dans un monde où Dieu semble parfois se taire, Élise crie. Lionel Astier est avec nous pour en parler. Bonjour Lionel Astier.
Bonjour.
Je le rappelais, on vous connaît pour vos rôles populaires à la télévision, mais depuis longtemps, vous portez aussi un théâtre plus de proximité, de sens, en particulier dans les Cévennes. Quel fil reliez-vous entre ces deux facettes de votre parcours ?
Oh, elle se relie toute seule. En fait, c'est assez complémentaire. En tout cas, c'est important, effectivement, de par le fait que lorsque nous avons créé les Camisards avec Gilbert Rouvière, le metteur en scène, nous sommes cévenols, nous sommes d'origine lozérienne, donc ça faisait longtemps qu'on disait il faut qu'on fasse quelque chose avec ces racines-là, il faut qu'on voilà. Mais l'actualité nous a rattrapés. Et tout d'un coup, là, ça a pris une autre importance. Avec Élise, la colère de Dieu, ça ne s'est pas arrangé. Donc l'actualité s'est dégradée. Et tout d'un coup, justement, pour répondre à votre question, joindre les deux, c'est aussi être dans des comédies, être dans des séries télé, ou même dans des comédies au théâtre, parce que j'en fais aussi. Mais celle-là me paraît un peu plus citoyenne, disons, voilà, c'est important pour moi.
Oui, d'ailleurs, Élise, c'est une histoire ancienne, mais j'ai utilisé le mot contemporain, parce que finalement, ça fait écho à plein de choses, on en reparlera tout à l'heure. Oui. En 2010, en tout cas, vous créez La Nuit des Camisards, donc
2008
même, qui raconte la résistance protestante après la révocation de l'édit de Nantes. Qu'est-ce qui vous a conduit à raconter cette histoire-là ? Alors, il y a bien sûr vos origines, on le comprend, mais peut-être plus encore.
Au départ, il y a les origines, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai été élevé par la branche protestante de ma famille. Mm-hmm. Donc, effectivement, les Camisards font partie de mon enfance. Ils m'ont toujours un peu fasciné. Et en les étudiant, ils m'ont encore plus fasciné. Donc, c'est la vraie raison, c'est ça. Puisqu'au départ, on disait avec Gilbert, qui lui, on a exactement la même enfance, on décidait, bon, on va... Et si on faisait quelque chose
sur ce sujet, qui n'est pas extrêmement travaillé d'ailleurs.
Non, à part le film d'Aliot, il n'y a pas grand-chose.
Nous allons plonger l'espace de quelques instants dans cette nuit des Camisards, ce souvenir de ça, comme si nous étions dans le public. Un petit extrait sonore.
Oh, les verres sont à s'enfuir, comme un ombre s'évanouit.
Si tu l'avais fait, tu t'aurais tué comme un rat.
Je vais te guider dans ton dernier voyage, guide massif.
Par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, je te jure!
Marie-Bastide, ton père te cherche!
Tout doucement, j'ai commencé à me dire que peut-être Dieu n'existait pas.
J'ai peur de mourir que de voir ce pays perdre la foi, Marie.
Alors l'Éternel a besoin de ma vie.
Dieu vous juge et nous punit tous pour vos fautes.
Lionel Astier, quel avait été l'accueil des protestants à l'époque, de la reconnaissance, de l'émotion ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Oui, pour le public, oui. À part, je le disais, il y a toujours, quand on fait une fiction historique, il y a toujours une poignée de détracteurs qui disent « ça ne s'est pas passé comme ça ». Mais bien sûr qu'au théâtre, ça ne s'est pas passé comme ça. Oui. Comment voulez-vous qu'on restitue des actes qui ont impliqué des milliers de gens avec une dizaine d'acteurs?
Bon, mais bref. Évidemment. Mais sinon, puis, c'est la liberté aussi du théâtre, oui, du cinéma, oui, d'inventer et de permettre de cette façon de dire d'autres choses.
Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, ça a été un succès. C'était un succès parce que le fait que... on a cherché un peu la formule, mais à partir du moment où on a décidé de le rendre nomade, le spectacle,
de le faire tourner en extérieur,
mais dans des lieux sauvages.
Hein. Ouais.
Là, ça a été un succès complet, on a même refusé du monde. Il a accueilli 50 000 spectateurs quand même.
Et oui, quand même.
Voilà, en 8 ans. Avec 12 ou 13 représentations chaque été, pas plus. Donc c'est quand même considérable.
Un joli succès. Ouais. Donc sans plus tarder, venons-en à votre nouvelle création. C'est Élise, la colère de Dieu, qui est en tournée actuellement, en tout cas depuis vendredi précisément pour la première à Florac, ce soir Saint-Chély d'Apcher, et jusqu'au 12, 13 et 14 août, avec 3 dates à Mialet, sur le magnifique lieu bien sûr de l'Assemblée du Désert et tout près de son musée. Au total, 19 représentations exceptionnelles en plein air, à ne manquer donc sous aucun prétexte, si vous vous trouvez dans cette si belle région des Cévennes. Et un titre qui frappe immédiatement, d'où vient-il? De quoi parle cette pièce, Lionel Astier? Qui est Élise?
C'est ma grand-mère.
Elle est inspirée de votre grand-mère.
Ouais. Élise Bonal, c'est son prénom et son nom de jeune fille.
D'accord.
Et effectivement, elle a beaucoup contribué à mon éducation, en tout cas à me donner des valeurs que j'ai toujours. Élise raconte, quelques mois après le déclenchement de la guerre. On n'est pas encore dans le gros de la guerre, si je puis dire, dans les affrontements. Ils sont pas encore très organisés, les camisards, mais on est au moment où ce que les autorités appellent les racailles, c'est-à-dire qu'ils brûlent les églises, ils détruisent les hôtels, il y a des assassinats de prêtres et tout ça, et ils sont imprenables. On n'arrive pas à les attraper. Voilà, à les attraper. Et Élise, pour la petite histoire, en fait, a déjà perdu son... Dans la nuit des camisards, dans la pièce précédente, a déjà perdu son mari à la révocation. Et là, dans cette pièce-là, elle vient de perdre un fils dans une bataille qui a existé, qui s'appelle Témélac, où un certain nombre de camisards sont morts, qu'on a décapités. On a exposé leurs têtes dans plusieurs villes des Cévennes. Et les autorités se sont permis de dire, en exposant ces têtes, qu'ils avaient réglé les troubles, alors qu'en fait, on était à la veille de la guerre. Voilà. Et donc, Élise, son dernier fils, qui prophétise, vient de se faire capturer et emmené à Montpellier pour être exécuté. Et alors que cette femme n'a jamais tenu une arme, un fusil de sa vie, elle va décider de délivrer son fils en sachant qu'elle n'y arrivera pas, en disant qu'elle n'y arrivera pas, mais qu'elle ne voit pas ce qu'elle pourrait faire d'autre, et que tant pis, il vaut mieux échouer que ne rien faire, et surtout avec cette idée qu'il lui est inconcevable de survivre à ses enfants.
J'évoquais le désert avec Mialet, avec son assemblée annuelle notamment, le dimanche 7 septembre cette année. Nous y serons en direct pour la retransmission du culte de 11h à midi sur France Culture. Et puis le magnifique musée attenant. Élise, l'héroïne donc de votre pièce, avec sa sœur aînée Lucie, vivent précisément dans ce qu'on appelle le désert.
Elles vivent au désert. Moi, c'est ce que j'appelle les exilés de l'intérieur. En sachant que tous, on parle beaucoup des fugitifs, qu'on appelle aujourd'hui les migrants, tout le monde n'a pas les moyens de partir, et donc effectivement elles ont été surprises dans des assemblées, on leur a tout confisqué, donc elles sont au désert, et elles vivent au désert, oui, effectivement. Et il y a tout un peuple au désert, comme ça, qui vit. Il y a un autre personnage qui s'appelle Moïse, qui vit dans une grotte.
Et d'une certaine façon, les spectateurs qui viennent voir cette pièce deviennent des habitants de ce désert.
Exactement.
Il y a une forme d'immersion.
Exactement. C'est-à-dire que, je peux le dire, c'est une particularité des deux pièces, parce que les deux sont jouées cette année.
Oui.
C'est qu'en fait, je n'ai pas voulu, comme on fait souvent au théâtre, je n'ai pas représenté, par exemple, la cour. Vous voyez, comme on peut faire au théâtre, il y a une scène qui se passe à la cour, tout se passe en Cévennes.
On reste toujours.
Étant donné que le public est là, on a voulu que ce soit une immersion, et même au niveau de l'écriture, tout se passe là, avec les personnages qu'il est possible de rencontrer dans ces montagnes.
Alors justement, ce plein air, cette nature cévenole, est-ce une contrainte ou est-ce une grâce ?
C'est une grâce.
C'est une vraie grâce.
C'est une grâce pour une raison très simple. Parfois le théâtre, enfin, on retrouve un peu avec cette façon de faire du théâtre, le théâtre des origines, ce qui est un lieu de rassemblement et d'échange. On dit même que c'est là que sont lieu les prémices de la démocratie. Ouais. Donc effectivement, on les retrouve et... Ça peut paraître incroyable de dire on va vous inviter au théâtre au pied du Causse-Méjean, au niveau de l'accessibilité. Et pourtant, je suis persuadé que pour certains, c'est plus facile d'aller au pied du Causse-Méjean que de franchir les portes d'un théâtre. Oui, parce que peut-être le théâtre aujourd'hui, et j'en sais quelque chose, a perdu son rôle de rassembleur et peut-être aussi son côté populaire au bon sens du mot. L'a un peu perdu. Et là, on le retrouve un peu.
De l'autre manière, du côté, j'allais dire, des comédiens, les pierres, la nuit, la terre, est-ce que ça influence le jeu, la parole, la réception ? Enfin, est-ce qu'on est différent dans la nature que sur une scène de théâtre classique ?
Je réponds oui sans hésitation pour une bonne raison, c'est que beaucoup, il y a toujours un pourcentage du public qui vient le voir ailleurs. En disant je suis curieux de voir ce que ça donnera là-bas. Et c'est vrai que par exemple au Collet de Dèze à Champ-d'Omergue, qui est un lieu de mémoire de bataille camisarde et aussi de bataille maquisarde aussi, les deux, je me souviens de cette représentation incroyable où on était sous un planétarium et c'est incomparable avec quoi que ce soit. Et le fait est aussi que la nature est sans âge, donc elle favorise cette immersion.
Avant chaque représentation, il y a aussi quelque chose qui précède, et c'est une des particularités, autant dans la nuit des Camisards qu'avec Élise, conférence historique généralement, mais cette année, vous allez mettre la main à la pâte aussi, et vous-même introduire plusieurs fois la pièce.
Oui, il y a une librairie aussi, qui est toujours présente, où le spectateur peut repartir avec les ouvrages des historiens, et effectivement, on invite chaque fois un historien à faire une conférence sur le sujet de son choix, bien sûr sur les Camisards, mais peut choisir la révocation ou autre chose. Et effectivement, cette année, je vais donner 7 fois la même conférence qui portera effectivement sur l'histoire des Camisards, mais aussi sur le théâtre. Enfin, la partie historique étant quand même destinée à amener un confort au spectateur pour entrer dans cette ambiance très particulière, dans cette révolte étrange. Et je voudrais juste ajouter quelque chose par votre question précédente, c'est que à Méruès, la représentation s'était passée intégralement sous la pluie. Et que personne n'est parti. Et qu'en sortant, et je vous jure que c'est vrai, en sortant, quelques spectateurs sont venus me voir en disant « Je pense que ceux qui ne l'ont pas vu sous la pluie ont perdu quelque chose.
» Mais c'est vrai que tout ça influence naturellement autant la manière de recevoir que de donner la pièce.
On dit toujours que chaque représentation, est unique. Même quand on est dans les murs d'un théâtre, alors vous pensez là.
Quel type de théâtre proposez-vous ici, selon vous ? Plutôt un théâtre historique ou alors un théâtre spirituel, engagé, existentiel ? Est-ce que tout ça se recoupe aussi ?
Il y a un petit peu de tout ça, peut-être dans l'écriture, un petit peu, oui, parce que il y a un théâtre, forcément, il y a une part d'histoire, mais il y a aussi, dans une pièce de théâtre, il y a toujours un regard de l'auteur. Ouais. Je ne suis pas historien et je ne me comporte pas comme tel, c'est-à-dire c'était Guy Bedos qui disait ça. Il disait « Je me mêle de ce que je regarde. » Donc, je fais ça. Je me mêle de ce que je regarde, de ce que je vois aussi dans le monde d'aujourd'hui, quand j'allume ma télé, comme tout le monde. Et qui, souvent, maintenant, fait écho avec ça. Enfin, il y a une résonance, c'est sûr, très, très forte.
On va en reparler juste derrière.
D'accord. Ben voilà, il y a un petit peu de tout ça. Et par exemple, je parle sur le prophétisme.
Alors ça, c'est un aspect, tout le monde ne le connaît peut-être pas, particulier de ce temps des Camisards, où ces protestants vont prophétiser, vont entrer parfois en état de transe.
Oui, c'est une étape qui a précédé le déclenchement de la guerre. Il y a eu plusieurs stades, il y a eu les prédicants, on a remplacé les pasteurs, et ensuite les prédicants ont été pourchassés, éliminés, et les prophètes ont pris, les inspirés, on va dire, les inspirés ont pris la suite. Mais par exemple, les prophètes... Dans une épidémie de prophétisme, comme on disait, tout le monde se mettait à prophétiser, et je pense qu'il y avait à boire et à manger, comme on dit dans ces prophétismes. Mais je traite les deux, c'est-à-dire que par moments je me moque, mais par moments je ne touche à rien, parce que ça m'impressionne moi-même.
Alors j'ai utilisé le mot « engagement », et bien justement notre chroniqueur Vincent Smetana voulait nous proposer un mot, lui qui a toujours un mot pour dire autour de cette question. Bonjour Vincent.
Bonjour Jean-Luc. Je vous propose, si vous êtes d'accord avec cette idée, de parler vrai ce matin, car tenez-le-vous pour dit, Jean-Luc, le monstre de la vérité repose encore en nous, mais oui, faussement anesthésié par nos cadres et nos lois, n'attendant qu'une occasion nouvelle pour sortir de sa léthargie. Aussi devons-nous sans cesse être prudents, méfiants même, mais d'abord à l'égard de nous-mêmes. Aussi devons-nous sans cesse rester vifs et vivants, citoyens, éveillés, engagés. Histoire, en 1702, la révolte des Cévennes éclate, organisée par des bandes de jeunes paysans saturés de Bible et de colère, on les appelle camisards, ils prêchent, prophétisent en état de fièvre, mû d'une parole profondément engagée, fondée en cette seule et unique revendication, la liberté de conscience. Et vous le dites, Lionel Astier, pour surligner ces mêmes libertés qui perdent toujours du terrain, qu'elles soient de conscience, de s'exprimer, de dessiner, de circuler, et pour ces fugitifs qu'on appelle aujourd'hui migrants, qui subissent l'arrachement à la terre, les dangers et la dignité perdue. Camisard, masculin ou féminin, celle ou celui qui est en chemise blanche la nuit. Camisard, nom par lequel on désigna les protestants des Cévennes, qui ronchonnent, bougonnent, grognent, grommellent, maugrés, râlent, renaudent, marronnent, répoutègue, protestent, du latin protestari, protestor, déclaré haut et fort, attesté, témoigner, engagé en pleine liberté de conscience, une parole vive et forte et libre. Et ça, c'est bon pour la santé, Jean-Luc, c'est prouvé.
Et ça vous va aussi très bien.
Ah ouais, ah c'est vrai, non, vous me trouvez bonne mine, vous aussi. Vous voyez, ouais. c'est là que je vais, d'ailleurs,
tout
j'y
va
viens.
Bien.
Depuis les premiers travaux scientifiques montrant les effets relaxants d'une pensée libre et créative, signée par une prise de parole engagée, plusieurs recensions en ont confirmé les vertus sur la santé mentale. Non, mais alors, deux grandes catégories de types de mesures, soit des questionnaires auto-rapportés qui rendent compte des perceptions des sujets, soit des mesures physiologiques qui témoignent des effets sur le corps. Bon, on ne peut plus mesurer ces effets-là sur Élise, ses frères et sœurs, parents, amis, camarades, camisards, c'est trop tard. Mais il est prouvé par de nombreuses études sur le plan des mesures physiologiques qu'une attitude de protestation ou d'intégrité, ou d'engagement, même d'intensité modérée, a plus d'impact sur la détente neuromusculaire que le méprobamate.
Le quoi?
Le méprobamate, un anxiolytique puissant, aujourd'hui retiré du marché, parce que c'était genre de cheval, hein, vous voyez.
D'accord.
À la suite d'une prise de parole engagée, lorsqu'on mesure la fréquence cardiaque et la pression artérielle lors du retour au calme, on constate une détente du muscle cardiaque et un effet apaisant sur l'humeur, qui pourrait durer entre 2 et 7 heures après la séance, ce qui démontre aussi d'excellents résultats sur la santé mentale et la performance cognitive. Non, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous vous rendez compte? Apprivoiser la lecture d'une parole engagée, genre la Bible, mais c'est excellent pour la santé, les amis. CQFD. Certaines études ont même pu constater que le sentiment de compétence et l'estime de soi s'améliorent, 6 études sur 8, ainsi que les affects comme l'humeur, le bien-être, l'anxiété, la dépression, 13 études sur 14, et les performances cognitives globales comme la mémoire, le temps de réaction, la résolution de problèmes et la concentration, 9 études sur 13.
Eh bien, en tout cas, on voit que vous avez potassé cette chronique, qui, soit dit en passant, le mot potassé ne vient pas de potasse ou potassium, mais plus sans doute d'un verbe régional qui signifierait cuisiner. Mmh. Et je n'irai pas plus loin sur la table, la cuisine, la Bible, enfin,
mais,
vous savez
mais,
tout
non,
ça.
Mais, non, mais j'aurais, vous alliez encore parler de votre livre.
Non.
C'est un détournement de chronique. Je proteste. Hein. Conclusion, il est bon de protester, c'est-à-dire de ne rien considérer comme acquis. Il est bon de ne pas s'abandonner à des modes de pensée formatés. Il est bon de ne pas se laisser diluer dans une parole normée, dictée, lissée, mortifère. Il est bon de ne pas démissionner de nos désirs. Il est bon de rêver fort à une parole qui serait la promesse de tout ceci. Et bonne nouvelle, cette bonne nouvelle est une bonne nouvelle qui existe. Une parole de vie qui vit et vibre. Jésus est ce générateur d'une parole tout autre qui désingue nos léthargies, qui dilue nos délétères démissions, qui nous secoue, nous élève et nous remet debout dans cette attitude-là. Protester, résister, créer, revendiquer, témoigner, vivre. Bon. Qu'est-ce que vous dites, hein? Ça me semble quand même engagé, ça, non, comme genre de chronique. Ah, il oui. y a pas quelqu'un dans ce studio qui a une montre intelligente, là, ça serait bien de mesurer mes paramètres. Là, j'ai l'impression que c'est tout bon, là, je.
Vous vous sentez bien?
Oui, je me sens. Humeur, détente, neuromusculaire, concentration. Non, sérieux, je me sens bien, là. Lionel, Jean-Luc, vous, auditrice, auditeur de culture, je vous conseille de faire pareil, hein. Engagez-vous, hein.
On prend note, en tout cas, et c'est bien de se sentir bien. On en a vraiment besoin.
Bravo.
Lionel Astier, protester, avoir une parole engagée, c'est quelque chose qui vous rejoint.
Oui, quand vous disiez ce que c'est engagé, oui, forcément, il y a forcément un peu d'engagement. Non, c'est sûr. D'abord parce que c'est, quand on parle d'histoire, l'histoire d'abord présente des fissures, présente des blancs, présente un... Et même l'auteur, à un moment, se retrouve dans le fait de s'investir dans chacun de ses personnages et d'être responsable de lui, de le faire parler et de le faire réfléchir. Effectivement, c'est, ça, presque l'engagement est, se fait automatiquement.
Se fait naturellement.
Oui, naturellement.
La dimension de la foi, vous avez dit que vous avez grandi dans un milieu protestant. Comment vous vous situez aujourd'hui ?
Alors, j'avais une famille moitié catholique, moitié protestante.
Ouais.
Catholique du côté de mon père et protestante du côté de ma mère. Et c'était mes grands-mères qui étaient très présentes et très curieuses, qui, très curieusement, ma grand-mère catholique était très bigote. C'est-à-dire qu'elle ne parlait que de ça. Ouais. Elle ne parlait que de Dieu, elle était toujours fourrée à l'église, le curé était toujours à la maison. Ma grand-mère protestante n'en parlait jamais.
Ouais.
Pourtant, c'est elle qui m'a impressionné. C'est elle qui m'a, par certainement ses attitudes, les valeurs qu'elle avait. Et je me suis aperçu, je dois le dire quand même, je me suis aperçu que j'étais de culture protestante en écrivant les pièces.
Ah oui,
oui.
Il y a quelque chose qui s'est produit là.
Mais, ouais. Mais d'ailleurs, j'ai entendu ça récemment, on me dit, on n'est pas protestant, on se rend compte qu'on l'est.
Ouais, c'est intéressant. Alors, La Nuit des Camisards, Élise, la colère de Dieu, c'est une histoire passée, on l'a dit, ancienne, mais on l'a aussi évoquée. Aujourd'hui, d'autres guerres, d'autres combats, d'autres haines, d'autres violences, d'autres volontés de dominer, de soumettre, voire même parfois d'éradiquer carrément. J'ai le sentiment qu'on ne peut pas voir Élise, la colère de Dieu sans avoir cette résonance contemporaine. Vincent le suggérait aussi à un moment dans sa chronique.
Oui, oui. Ben, tout à fait. Moi, je trouve que c'est la résonance me paraît évidente, hélas. Mais oui. En tout cas, on est dans une... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, dans une situation extrêmement anxiogène.
Ouais.
Parce que, qui implique un avenir incertain, mm-hmm. au moment de la Nuit des Camisards, il y avait une menace de guerre. Mm-hmm. Maintenant, elle est là, la guerre, elle est partout. Et donc, en fait, Élise, la colère de Dieu, avant de raconter toutes ces guerres-là et tous ces... raconte surtout cette incertitude.
Ouais.
Ce chaos où tout le monde... C'est-à-dire, c'est pas simplement la colère d'Élise, c'est la colère de tout le monde. Même les catholiques entre eux ne s'entendent plus.
Ouais.
Parce qu'ils sont pas d'accord sur la manière dont s'y prendre. Il y en a qui sont radicaux, il y en a qui sont plus conciliants, il y en a qui... Bon, voilà. Mais en tout cas, c'est surtout... cette incertitude et ce qui est un peu désespérante. Mmh. Il y a un humoriste que j'aime bien qui s'appelle Haroun et qui dans un sketch dit quand il commence à le connaître, il scène des selfies et il dit alors une fois que j'ai signé mon selfie, on me dit et surtout continuez bien à nous faire rire, surtout en ce moment parce qu'on en a bien besoin. Surtout en ce moment, ouais, il dit, alors est-ce qu'un jour on va me dire, ben non, ça va.
Ouais, c'est bon. On n'en a plus besoin.
Non, on n'a plus besoin, tu peux arrêter de bosser. Je crois pas.
Ouais,
je crois pas, je crois que...
Voilà.
Mais c'est important aussi de dire, dans l'actualité qui est la nôtre et qui est désespérante, la nécessité du théâtre aussi.
Oui, ouais.
De se dire, on peut trouver ça complètement dérisoire. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est superflu?
C'était le grand sujet pendant la Covid, la culture qui devenait... non essentiel, alors qu'à l'inverse...
Oui, c'est ça. Alors moi, évidemment...
Je défends l'idée...
De par ma position, je pense qu'elle est nécessaire. Je pense qu'effectivement,
et même essentiel.
Au contraire, on a besoin de pas forcément pour... comme Haroun, en disant, continuez à nous faire rire, mais continuez en tout cas à nous parler. En tout cas, continuons, vous l'avez dit aussi dans votre chronique, continuons à nous parler, continuons à échanger. Et le théâtre est un des lieux où il faut attirer les gens. D'où aussi notre choix d'extérieur.
Ouais.
De dire, on va plutôt... C'est un théâtre qui même va à la rencontre du spectateur et non pas le contraire, ne l'invite pas dans les théâtres, va à sa rencontre.
Ce qui est finalement très christique aussi, puisque c'était ce que faisait le Christ lui-même. Il ne faisait pas venir les gens quelque part en particulier, mais il allait les rencontrer. C'est intéressant aussi de ce parallèle. J'ai découvert une autre facette chez vous qui fait passerelle entre votre métier de comédien et la foi chrétienne. C'est une petite surprise. Vous êtes un lecteur de la Bible, et en particulier des livres dits de la sagesse. Vous avez participé à l'enregistrement d'une Bible audio avec de nombreux autres comédiens professionnels. Et j'en ai rencontré un récemment qui m'a dit « Mais Lionel Astier, c'est Salomon !»
C'est Salomon.
Alors,
je suis pas un spécialiste de la Bible
non,
du tout.
Non, mais bien sûr,
je saurais pas répondre. Mais
vous avez participé à cet enregistrement, et on va en écouter un extrait.
Ah oui. Ah ben moi, je l'ai jamais entendu. Alors ça me fait plaisir.
Alors, écoutons-le. Un court extrait. C'est votre voix, et c'est le début du livre de l'Ecclésiaste.
Comble de l'inconsistance. dit l'Ecclésiaste. Comble de l'inconsistance, tout n'est que fumée. Quel avantage l'homme retire-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre arrive, et la terre est toujours là. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après l'endroit d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le sud, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, mais la mer n'est pas remplie et ils continuent d'aller vers leur destination. Tout est en mouvement, plus qu'on ne peut le dire. L'œil ne sera jamais rassasié de voir et l'oreille ne sera jamais remplie au point de ne plus pouvoir écouter. Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
C'était ma petite surprise.
Salomon.
On retrouve cette Bible audio.
J'ai eu plaisir à faire ça.
Ouais, cas, oui. Un bon moment.
Oui, parce que d'abord parce que c'était pas moi seul face à un micro. Oui. J'avais quand même beaucoup de gens derrière et puis on discutait de la façon de le dire, de la façon. Donc c'était passionnant à faire, vraiment.
Et on retrouve donc cette Bible audio sous forme d'application pour smartphone sous l'intitulé Écoutez la Bible ensemble ou sur le web à l'adresse www.prsi.org/fr. On mettra ça sur le site internet. Merci Lionel Astier. Avant de nous quitter, si vous deviez donner une seule raison, une phrase pour inviter nos auditeurs à venir voir Élise, la colère de Dieu, vous leur diriez quoi?
Je dirais, venez, parce que c'est quand même un drame, même si je mets toujours de l'humour dans les spectacles, parce que je pense qu'il est indispensable. Mm-hmm. Je pense qu'il est indispensable, c'est une politesse vis-à-vis du spectateur pour moi, l'humour, et puis c'est un seul laisser-passer. Et de cet humour, surtout si les choses sont graves, voilà. Mais je leur dirais, venez libérer vos émotions négatives.
Ah. Rappel rapide, Élise, la colère de Dieu, c'est aussi un livre d'ailleurs chez Alcide Éditions, et puis en plein air dans les Cévennes cet été depuis vendredi jusqu'au 14 août. Toutes les dates et d'autres infos encore à retrouver sur internet, Élise-la-colère-de-dieu.com. Et puis dans un autre genre, Lionel Astier à la télévision, naturellement avec Kaamelott, réalisé par votre fils Alexandre Astier.
Oui.
Et vous donc dans la peau du fameux Léo Dagan, roi de Carmélie, des gardiens de la table ronde, un autre registre. Au revoir Lionel Astier.
Au revoir, merci.
Et merci pour ce délicieux moment. C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost, avec Claire Levasseur, la prise de son. Émission que vous pouvez réécouter sur le site protestantpluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2 à 10h, ce matin, un très joli documentaire d'Audrey Lasblaise et Marie-Laure Ruiz-Maugis, Edward Hopper, le dernier puritain, un nouveau volet de la série documentaire Peindre la Bible. La semaine prochaine, une émission spéciale enregistrée à la médiathèque protestante de Strasbourg pour parler des 500 ans de l'anabaptisme. Mais pour le moment, sur France Culture, 9h, ce sont vos informations. Et puis juste derrière, Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon dimanche à chacune et à chacun.